I used to be an adventurer like you, and I took an arrow in the knee.
That loser didn't stand a chance!
You were almost a gibbet sandwich.
Hey, listen!
Heroes never die.
Caught one.
The edge of the universe and back. Endure and survive.
Killing you and giving you good advice aren't
nothing is true. Everything is permitted.
Do a barrel roll.
Oh, cool, du travail.
Well, this is a tomb. I'll make them feel at home.
This is my favorite store in the Citadel.
Objection!
This world is mine.
What did I say?
Wait. That's not how it happened.
Bonsoir à tous et à toutes, et bienvenue dans Une Heure et des Pixels, une émission réalisée et produite par l'association Pixel Up et diffusée sur Radio Campus Paris. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Gomeysa et Queen Apple. Comment est-ce que vous allez ?
Bonsoir, ça va très bien et toi ?
Ça va.
Eh ben, ça va super.
Anna ne peut hélas pas être avec nous physiquement ce soir, mais elle le saura vocalement car elle nous a envoyé un petit magnéto. Et ce mois-ci, nous recevons Maureen Micol, Game UX Designer, qui a notamment travaillé pour Asobo et Larian Studio, créatrice de la chaîne YouTube What the Fux, autour du UX Design et de psychologie dans les jeux, et qui mène tous les mois des entretiens avec des professionnels du jeu vidéo sur sa chaîne Twitch. Bienvenue et comment vas-tu ?
Eh ben ça va nickel, merci beaucoup pour l'accueil. Comment ça va ?
Ça va très bien. Tout de suite, nous allons commencer avec la chronique de Gomeysa qui porte sur la construction sociale de la nature dans les jeux vidéo.
Est-ce qu'il y a de la nature dans les jeux vidéo ? Évidemment, il y a des champignons qui font grandir, il y a des hérissons qui courent vite, et plus simplement, il y a des arbres, des falaises, de la gravité, de la mousse sur les ruines de Horizon Zero Dawn, des villes submergées dans Highwater et des planètes dans le système solaire d'Outer Wilds. Oui, il y a des représentations de ce qu'on associe à la nature dans les jeux vidéo. Mais est-ce qu'il y a de la nature dedans ? Alors, Dr. Alan Dachang, qui est professeur de sciences des médias à l'Université de Californie, elle propose dans son livre Playing Nature de reprendre le terme déjà existant de mésocosme. Un environnement semi-cloisonné intermédiaire entre la liberté totale d'un habitat et la possibilité de faire varier des facteurs pour y étudier des phénomènes écologiques. Elle propose que les jeux vidéo sont des mésocosmes, qui représentent des systèmes limités, un peu analogues à la nature. Mais alors déjà peut-être, qu'est-ce que c'est que la nature ? Alors, personnellement, longtemps j'ai pensé que la nature pouvait se définir comme l'ensemble des phénomènes qui sont indépendants des volontés humaines. Ça regroupe selon moi les insectes, les pastèques, l'érosion des montagnes, jusqu'à des éléments un peu moins consensuels comme les comètes et l'espace-temps. Et je me dis du coup, un champ de poireaux, bah, c'est une initiative humaine, donc c'est pas vraiment naturel, mais la croissance des poireaux, la photosynthèse, bah, ça on y est clairement pour rien. Cette façon de voir un peu comme ça, c'est un peu typique de la pensée occidentale qui s'articule autour d'une dualité mutuellement exclusive très importante. D'un côté, la nature, et de l'autre, la culture. La culture, ce serait le propre des humains, avec la politique, l'intentionnalité, la morale. Et la nature, ce serait le reste, ce qui est sans intervention humaine, sans subjectivité, l'absence d'intentionnalité. Et ça me fait penser à un lore, je trouve, qui se prête bien un peu à cette espèce de limite un petit peu floue entre nature et culture, c'est les Pokémon. Alors, est-ce que les Pokémon chantent leur nom parce qu'ils répètent comment les humains les interpellent ? Ou bien est-ce que les humains ont nommé les Pokémon en se basant sur leur chant spontané ? Par exemple, est-ce que les humains ont nommé le muscle de leur bouche « langue » et ont par conséquent nommé ces Pokémon avec un grand muscle dans leur bouche « ex-langue » ? Ou bien est-ce que ce sont les Pokémon qui, avec un grand muscle dans leur bouche, qui chantent « ex-langue, ex-langue », ce qui a par la suite inspiré les humains à nommer le muscle dans leur bouche « langue » en référence à cette espèce ? Alors je sais, c'est une question un petit peu farfelue, mais je trouve qu'il y a un peu ce mélange comme ça, en fait, qu'on invite un petit peu à déconstruire. Donc cette distinction, elle est un petit peu illusoire. Dans cette vision dualiste, on inclut dans la nature, c'est par définition dénué de culture. On pense les animaux comme dénués de culture et les plantes comme incapables de détruire le monde. Bon, pourtant, les animaux sont comme nous capables de détruire leur écosystème, et on sait qu'une petite algue, il y a 445 millions d'années, a commencé à absorber le dioxyde de carbone de l'atmosphère, un des fameux gaz à effet de serre, causant un refroidissement global, ce qui est probablement la cause de l'extinction de masse de la fin de l'Ordovicien qui a vu disparaître les trois quarts de la vie marine. C'est pas rien. Mais donc, moi ce que j'ai envie de dire, c'est que, en fait, la nature, ça n'existe pas. Alors ça paraît bizarre comme ça, mais ce que je veux dire, c'est que la nature, c'est une construction sociale qui trahit notre rapport à ce qui nous entoure. Ça peut s'observer en allant chercher comment les différentes populations humaines conceptualisent le monde qui les entoure. L'anthropologue Philippe Descola a proposé quatre ontologies, quatre façons de concevoir la réalité des choses. La caractéristique repose sur deux axes, l'intériorité, qui est une dimension spirituelle, et la physicalité, qui plutôt repose sur l'aspect tangible des choses. Et sur ces axes, on peut être soit similaire, soit différent. Alors, la première, qui est la plus connue, c'est le naturalisme, qui est similaire dans sa physicalité, mais diffère dans son intériorité. Alors par exemple, ça veut dire que bah, nous, on va se penser fait, on va dire, de la même matière avec, mettons, les animaux et les plantes. Par contre, la spiritualité, ce qui se passe dans notre tête, ça, on est radicalement différent. Donc c'est cette façon de penser qu'on retrouve beaucoup dans le concept de la nature qui est au cœur de nos discours. La deuxième qui est intéressante, c'est l'animisme. C'est-à-dire une similarité dans l'intériorité, par contre une différence dans la physicalité. Alors ça vaut le coup de demander à la rivière, par exemple, si c'est ok qu'on la traverse. Parce qu'elle est comme nous, elle a un petit peu voilà, son tempérament, donc elle est, il faut qu'on lui demande. Par contre, effectivement, elle est différente de nous, physiquement. Et ça vaut aussi le coup de s'excuser et de remercier le renne qu'on a tué pour la subsistance dont on a besoin. Et il y a un jeu qui ressemble vachement à ça, c'est Everything, qui repose d'expérimenter toute forme d'existence. Alors du coup, dans ce jeu-là, on peut jouer tout, hein, une clope, une girafe, une parabole satellite, ou une crotte de chien, en tout cas tout sauf un humain. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que du coup, on peut être tout, donc en fait, on est un petit peu la même expérience de jeu, on a le même gameplay qu'on soit toutes ces choses-là. Ça rejoint un petit peu cette idée que l'intériorité est la même, même si notre enveloppe, notre corps, le fait qu'on soit un continent, une planète, ou un grain de sable, du coup ça diffère. La troisième ontologie, c'est le totémisme. Ça, c'est un petit peu plutôt une question de similarité dans l'intériorité, et aussi une similarité dans la physicalité. C'est-à-dire que, en fait, le totem, c'est pareil que notre clan. Et notre clan, il est pareil que le totem. Ça, c'est un truc qu'on peut retrouver, par exemple, j'ai pas trouvé beaucoup d'exemples, mais il y a l'arbre de compétences de Far Cry 4, qui propose deux voies, la voie du tigre et la voie de l'éléphant. Et en fait, dans ces deux chemins différents, on va pouvoir trouver soit du coup des traits qu'on va rapprocher au tigre, soit des traits qu'on va rapprocher à l'éléphant, et du coup on va pouvoir les approprier pour devenir, en quelque sorte, de plus en plus proche de l'éléphant et du tigre. Et puis il y a une quatrième qui est l'analogisme. Alors là, c'est une différence dans l'intériorité et une différence dans la physicalité. C'est un peu compliqué, mais en gros, ça rejoint des conceptions très hiérarchisées du monde. Ces quatre ontologies, c'est pas une proposition très consensuelle dans le monde de l'anthropologie et de la sociologie, mais je trouve qu'elle a le mérite de défricher un petit peu l'idée qu'on peut trouver d'autres façons de voir le monde. Et d'autres façons de voir le monde, c'est aussi ce que Kalenda Chang, dont je parlais au début, elle appelle à envisager l'agentivité non humaine. Elle nous propose d'incarner d'autres choses que nous-mêmes, les humains. Donc les jeux vidéo qui nous permettent d'envisager l'agentivité non humaine, c'est-à-dire des choix qu'opèrent des individus autres qu'humains en fonction de leurs besoins propres, et parfois comment ces choix sont contraints par les activités humaines. À ce sujet, je pense surtout à Gibbon Beyond the Trees et Night Flyer A Bat's Journey, qui ont un propos très proche, d'un côté sur la vie d'une famille de gibbons, et de l'autre sur une chauve-souris, qui vont voir leurs conditions d'existence bouleversées. Et je trouve que c'est hyper intéressant parce que c'est aussi ce qu'appelle Alain Natchang quand elle remarque qu'en général, les écologistes n'incluent pas du tout les jeux vidéo dans leur trousse à outils. Je pense que de ce côté-là, il y a encore du boulot.
Merci pour ta chronique. Est-ce qu'il y a des gens qui souhaitent rebondir sur cette chronique ? Maureen ?
Alors, je n'y ai pas joué, mais je voulais juste glisser ça parce que j'ai vu qu'il y avait un jeu qui allait sortir, qui parle justement de l'histoire d'un petit marcassin en quête de survie. Il me donne très très envie. Du coup, je voulais caler ça là. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de tester la démo ou d'en entendre parler. Mais j'ai l'impression que pour le coup, il parle effectivement vraiment de la vie de ce petit marcassin pour le coup.
Ouais, je suis très très fan de ce jeu. Depuis que j'en ai entendu parler, j'étais très content que la démo sorte. Et vraiment, bon, le jeu est beaucoup trop mignon, hein. C'est interdit de faire des jeux comme ça, quoi.
Pas eu le temps de la faire, mais ouais, ça me donne vraiment très envie. Il est dans ma wishlist de côté, dans ma liste à faire, parce qu'il a l'air vraiment trop trop mignon, quoi.
Et il y a aussi un aspect que je trouve intéressant, c'est que c'est un jeu français, donc qui est fait à Montpellier. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir choisi cet animal-là, donc le sanglier, qui, en France, a quand même une très mauvaise presse, qui fait vraiment partie de ce qu'on appelle les animaux mal aimés, qui est une proie de choix, on va dire, pour le monde de la chasse, et qui, voilà, qui a plein de mauvais surnoms, qu'on appelle la créature noire, la bête noire des forêts, et je trouve que c'est chouette qu'en France, il y a un jeu qui est décidé, alors, c'est un peu facile, parce que c'est un bébé, c'est un petit barcassin, il est mignon, mais n'empêche que d'avoir choisi un sanglier, qui n'est pas une bête très appréciée, ça me fait hyper plaisir, et j'aimerais vraiment pouvoir discuter avec les gens de ce studio-là, parce que j'espère ne pas être encore déçu par le fait que c'est le game design qui a lead le propos et les représentations, et j'aimerais apprendre qu'en fait, non, on avait vraiment décidé d'aller parler des sangliers parce que c'est vraiment une cause à défendre. Bon, je me fais un peu du film là-dessus, mais en tout cas, ça m'intéresserait de discuter avec eux parce que je trouve que c'est hyper intéressant. Et non, puis en plus, il y a plein de gameplay dedans qui sont hyper intéressants aussi sur le fait que quand on a un sanglier, bon, la vision, ça sert un peu, mais c'est pas ça le truc. C'est vraiment clairement le pif, quoi. Et voilà, et du coup, le jeu met vraiment en avant l'odorat. Et pareil, je trouve que c'est intéressant parce que ça rejoint vachement du coup cet appel de expérimenter d'autres agentivités, en tout cas d'autres façons d'être au monde. Et tiens, je rebondis là-dessus en parlant de Snake Pass, qui est un jeu de plateforme, on pourrait dire, un peu collectathon, mais en fait on joue un serpent. Sauf qu'un jeu de plateforme avec un serpent, vous allez me dire, mais c'est n'importe quoi. Et ben en fait, si, c'est hyper intéressant parce que tout le jeu va se jouer avec un gameplay de reptation, donc de se déplacer comme un serpent. C'est hyper intéressant, je trouve, comme jouabilité. Et du coup, encore une fois, voilà, ça rejoint aussi le fait de dire, bah tiens, proposons d'autres façons de voir les choses. Je trouve que ça participe hyper bien à cette transition affective des discours un peu écologistes, peut-être.
Les sangliers, ils ont regagné en popularité depuis qu'ils détruisent les golfs des bourgeois. Donc, c'est plutôt cool maintenant d'être un sanglier, je crois.
Ouais.
Sur ce, merci beaucoup, Gomeissa, pour ta chronique. Et Queen, je te laisse la parole et tu vas nous parler d'e-sport.
Alors oui, merci. Et avant de commencer, je voulais juste préciser un truc. Effectivement, je suis allée voir de l'e-sport et je suis allée à un événement où il y avait énormément de mixité de genre. Et malheureusement, les personnes que j'ai interviewées qui ont les voix les plus féminines, ça n'est pas passé suite à un souci technique. Donc c'est entièrement ma faute et je suis désolée pour ça. Mais sachez que oui, c'était un super événement. Alors, vous le savez, pour mes chroniques ici, je vadrouille un peu partout pour faire mes micro-trottoirs. Et bien, pour commencer cette nouvelle saison d'Une Heure et des Pixels, je me suis rendue non pas à Nice pour l'Ivo, non pas à Paris pour Paris Games Week, ni même à Singapour pour la Gamescom Asia. Non, moi, j'étais à The Place to Be. J'étais à Rieux-la-Pape, ma gueule. Une ville que probablement seuls les Lyonnais et Lyonnaises connaissent pour être beaucoup trop en hauteur. J'en sais quelque chose, j'y ai ruiné ma batterie de vélo électrique. Mais bon, j'y étais pas que pour défier mes performances physiques et celles de mon destrier métallique. J'avais une bonne raison de m'y rendre. Je vous laisse deviner un petit peu.
Parce qu'on va pouvoir désamorcer jusqu'au bout.
Ça
de
passe.
Incroyable. L'arrivée autour d'un Lucio qui a sorti un point de réaction.
Ouais, mais c'est tellement difficile. On se rend compte à quel point c'est difficile de lutter contre cette Brimstone.
Et oui, moins de gens connaissent Rieux-la-Pape pour être la terre d'accueil de la LAN Lyon eSport. 2 jours de tournoi avec 32 équipes, une centaine de joueurs et joueuses venus de toute la France pour s'affronter sur Smash Bros ou sur Valorant, parce que oui, c'est un événement qui a sa petite répute dans le cercle pas si fermé des compètes de jeux vidéo. Alors, si vous suivez un petit peu mes chroniques depuis le début, vous savez que les questions que je vais poser au public, elles vont pas être directement liées à l'événement, mais plutôt à une actu qui a fait grand bruit dans le monde de l'e-sport il y a quelques semaines, le rachat de l'Ivo par Qiddiya, le fonds d'investissement saoudien. Est-ce que le public de Lyon eSport a suivi cette affaire ?
Ouais. Oui, oui. Oui, ça j'ai vu passer.
Alors j'étais pas très surprise que les gens soient au courant, mais d'après certaines réponses, c'était plutôt couru d'avance ce rachat par l'Arabie Saoudite. La plupart s'y attendaient un peu et pensent même parfois que c'est une fatalité pour l'eSport en général. Mais pour quelles raisons exactement ?
Et de toute façon, enfin, faut être réaliste, à un moment donné, ça va arriver dans l'eSport. Il faut pas... Ça va arriver. Donc, il faut être réaliste, c'est juste qu'ils vont arriver et qu'ils vont évoluer. Je pense que voilà, il faut se faire à l'idée que ça va être quelque chose qui va se normaliser dans les prochaines années.
L'e-sport, elle ne va pas déroger à la règle en fait. Donc, c'est comme. Enfin, on pourrait en parler aussi pour plein de choses, pour le foot, les investisseurs dans le foot, dans le sport en général. Je pense que l'e-sport, on en est encore très loin. Mais si ça se dirige dans cette direction, effectivement, moi, ce n'est pas un truc qui me plaît forcément.
Il y a vraiment cette impression qu'on ne peut rien y faire. Genre, j'ai vraiment cette impression de. Si on n'est pas content, eh ben on dégage et on fait d'autres trucs. Après, c'est pas grave parce que c'est. Est-ce que ça pousserait pas à aller suivre les scènes locales, beaucoup plus locales, revenir vraiment à un circuit grassroots très, très niche encore. Ben, sinon, essayer de voir ce qu'on peut faire pour s'intégrer, faire un petit peu aller serrer la main du diable et essayer de le transformer en quelque sorte. I can fix him, tu vois. I can fix Qiddiya.
Alors, est-ce que l'e-sport peut vraiment faire évoluer certaines mentalités saoudiennes écoutez, faut pas sous-estimer le backlash du soft power, on sait jamais. Mais en attendant, j'ai surtout l'impression d'une sorte de défaitisme. Le fameux « on peut rien y faire, ça devait arriver ». Tout simplement parce qu'en France, l'e-sport s'est encore essentiellement financé par des investisseurs privés. Du coup, j'ai demandé aux orgas comment ça se passe pour organiser un événement de ce type. D'ailleurs, pourquoi la LAN de Lyon e-sport n'a même pas lieu à Lyon, en fait ? Ça m'aurait bien arrangé. Rends la batterie du vélo, Grégory Doucet !
c'est difficile, c'est dur. On a, ça a été du travail acharné, parce qu'il faut le dire, nous, c'est pas notre travail, hein, on n'est pas dans ce domaine-là du tout. Pendant un an avec Ludovic, on a essayé de trouver des sponsors. Le sponsor qu'on a eu majoritaire.
Ah oui, la LCL, qui, et on le dit à chaque fois, qui nous suit, et c'est incroyable parce que honnêtement, on n'y croyait pas, enfin, franchement, donc trop bien. Ils sont chauds pour nous accompagner sur la suite. Ils veulent vraiment s'inscrire dans l'e-sport et ça, c'est trop cool. Même si c'est une banque, peu importe.
Et oui, le sponsor principal de cette année, c'était LCL, donc le Crédit Lyonnais, la banque. Hein. Les plus anciens d'entre vous, sachez que je vous vois avec votre petit sourire en coin en train de tâcher de vous remémorer l'affaire Tapi. Mais ça, c'était il y a longtemps, ok. Aujourd'hui, c'est plus Adidas qui intéresse LCL, c'est Valorant. Blague à part, il y a bien eu un soutien également de la part de la région, donc ce cher Laurent Wauquiez était derrière nous, mais a priori, pas de la ville de Lyon. Bon, mais alors, est-ce que l'e-sport est condamné à être soutenu par des acteurs privés plus ou moins respectables ? Comment trouver le bon équilibre entre des associations de bénévoles qui veulent bien faire, avec une vraie dynamique pour l'intégration des minorités de genre, et vraiment j'insiste là-dessus, pour cet événement, et des financeurs publics qui ont au mieux un désintérêt poli pour ce sport pas tout à fait comme les autres. Le chercheur Nicolas Besombe, qui est sociologue à l'Institut des sciences du sport santé de Paris et membre de l'association France eSport, parle carrément d'émiettement institutionnel et de désintérêt de la part du ministère des Sports. Pourtant, en 2023, en France, le public déclaré de l'e-sport était de presque 12 millions de personnes, soit un gigasaut de 1 million de personnes par rapport à 2022. Est-ce que c'est pas justement de l'ordre des services publics que de financer et d'institutionnaliser les activités les plus en vogue et les sports d'une manière générale ? Surtout qu'en fait, on voit bien que les autres le font. Et c'est pas forcément des organismes qui ont les mêmes alignements en termes de diversité et d'inclusivité. Bref, let's go Rio la Pape. Rio la Pape for the win. Merci de m'avoir écouté. Et Lazare, du coup, je t'enverrai la facture de la batterie du vélo. Et merci, j'ai pas remercié les gens que j'ai interviewés, et notamment les membres de l'association Lyon eSport. Merci beaucoup pour votre temps.
Merci Queen pour cette chronique. Eh bien... Pour la chronique suivante, eh bien c'est la mienne. Je vais vous parler un petit peu en continuité hein, du triptyque que j'essaie de faire depuis la rentrée. Je vais tout simplement vous dresser mon bilan de l'accessibilité dans le jeu vidéo en 2025. Bon, je sentais venir après les chroniques précédentes, mais 2025, on va pas se le cacher, ça suit la continuité des sujets précédents, et donc c'est assez catastrophique pour l'accessibilité, et ce n'est pas un pur hasard. Alors pendant plusieurs années, on était plutôt sur une pente ascendante sur le sujet. 2024, comme j'ai pu en parler, ça se finissait sur des choses qui étaient assez prometteuses, comme le remake de Silent Hill 2 et ses options d'accessibilité bienvenue dans un jeu survival horror. Dragon Age Vanguard apportait un lot d'options d'assistance à la guidance plutôt bien pensées, et Prison Fersia The Lost Crown proposait des options originales pour le genre Metroidvania. Mais 2025, c'est pas trop ça. L'année souffre d'un contraste très fort entre ses sorties explosives d'une grande variété et pour certaines très attendues, et de l'autre côté, la présence de sujets d'accessibilité aux abonnés absents. Je vous invite à consulter le précieux site Can I Play That, alimenté par des personnes handies, pour découvrir leur travail et lire leurs tests d'accessibilité sur les sorties de cette année et constater un peu plus en détail l'état du paysage. Ainsi, on se retrouve avec un clair-obscur Expédition 33 à l'utilisabilité assez rêche, notamment avec ses QTE impitoyables, et non, le mode facile du jeu ne résout pas tous les problèmes structurels du jeu. Ainsi, ils sont bienvenus niveau gestion de l'échec, malgré des outils d'approchabilité présents. Un ADS2 avec certes des options d'accessibilité, mais insuffisantes lorsque des écrans aux surcharges visuelles et cognitives à ne plus savoir qu'en faire se succèdent. Ou encore un Silent Hill F qui ne possède pas un soupçon des options que proposait le remake du 2 l'an passé. Même Ghost of Yotei est très chiche en accessibilité, malgré le fait que Sony tienne plutôt initialement à l'accessibilité de ses jeux first party. Je ne parle même pas d'Assassin's Creed Shadows, en deçà de ses prédécesseurs, pourtant qui étaient assez modèles. Heureusement, quelques patchs ont vu le jour pour Clair-Obscur, Silksong et Silent Hill F, même si on est vraiment sur des aménagements qui sont assez légers, de l'équilibrage ou l'ajout de modes de difficulté. Tandis que pour ADS2, il a fallu compter sur la fanbase pour créer un mode avec des options adaptées à des handicaps visuels, comme par exemple des options adaptées à différents types de daltonisme. On a heureusement des plutôt bonnes surprises, comme le jeu South of Midnight, qui permet de skip des phases de combat ou de poursuites, entre autres, ou la Switch 2, qui propose un peu moins de barrières à l'accessibilité qu'à l'accoutumée pour Nintendo. Mais on n'a rien de très transcendant non plus. En somme, on a soit des jeux qui ont à peu près fait le strict minimum, des fois c'est juste du bureau mapping, des sous-titres qui sont corrects, hein, une proposition de niveau de difficulté, soit quasi le néant et quasi pas du tout d'innovation. Alors vous vous demandez peut-être comment est-ce que ça s'explique cette perte de vitesse sur ce sujet. Alors oui, il y a toujours le Curse of Knowledge qui joue un peu, le fait d'avoir le nez dans le guidon, de ne pas pouvoir s'extirper de ses biais, c'est une cause qui est très répandue, qui pousse à négliger ces typologies d'utilisatrices. Ça peut se corriger avec des moyens placés derrière des démarches de user research et de l'évasion d'user experience, mais on ne sait que trop bien, ce n'est pas forcément la priorité de tous les studios, même dans des gros studios ou chez de gros éditeurs, surtout dans une époque de réduction budgétaire assez importante. Alors cette variante, elle est pas nouvelle, hein, puisqu'elle touche toutes les disciplines liées au design de manière générale, mais c'est un facteur qui me semble bien trop marginal par rapport aux vrais dangers qui, selon moi, expliquent pas mal de choses sur la santé de l'industrie et, in fine, de l'état de l'art de l'accessibilité. Je me répète, probablement comme à peu près chaque chronique, mais on ne connaît que trop bien les actualités qui sont rythmées constamment par les vagues de licenciements, licenciements poussés par des actionnaires voulant gratter le moindre centime. Ces licenciements, ils touchent pas mal de postes qu'on juge souvent pas indispensables, voire politiquement un peu trop engagés, à comprendre souvent des postes orientés vers l'inclusion. Pas que. Quand on a Microsoft se voulant pourtant chantre de l'accessibilité web, jeux vidéo qui charcute sans regret des départements spécialisés qui ont pendant des années documenté le sujet, forcément bah, ça limite le nombre d'experts et d'expertes dans le domaine. Alors comment ne pas vous parler aussi de l'avènement de l'IA générative dans les studios, notamment l'utilisation de l'IA lorsqu'elle devient intégrée de plus en plus dans des process et des protocoles d'expérience utilisatrice qui trivialisent les métiers d'experts et d'expertes. Mais ce que je crains le plus, c'est que cette invisibilisation progressive, elle soit corroborée par l'ombre pesante et menaçante de l'extrême droite qui s'installe de plus en plus confortablement dans nos sociétés et de manière inéluctable dans l'industrie, son actionnariat, son top management, détruisant sur son passage les progrès minutieusement construits au fil des années, éradiquant progressivement les petites mains les plus fragiles qui, elles, ont pu faire avancer les choses à leur échelle. Ainsi, les entreprises s'assurent que seuls les profils retenus et protégés dans les studios soient bien lisses, et idéalement partagent un entre-soi pas trop tourné vers la diversité. Rien que le nombre de femmes et de personnes non cis-masculines dans l'industrie est en chute libre entre 2024 et 2025, et déjà qu'il n'était pas bien haut, bah c'est quand même assez inquiétant sur la direction de l'industrie. Pour autant, il ne faut pas abandonner, je ne veux pas finir l'année sur une note atroce non plus. L'accessibilité, c'est un combat social, c'est comme n'importe quel sujet social, on ne doit jamais se contenter de ce qui a été fait, on doit toujours aller, espérer vouloir plus, même quand c'était déjà pas mal. 2025 montre que si on ne fait rien, ce sont plus que des options dans un menu qui vont disparaître, c'est les voix de personnes concernées qui seront étouffées, et ça commence déjà à se voir. De manière collective, alliée ou concernée, on doit pouvoir râler dans des reviews Steam, je dirais râler, pas harceler, sur les réseaux sociaux, envoyer des mails aux studios de développement ou aux éditeurs, parler dans des podcasts, hein, qui sait. On doit aussi écouter et partager la voix des travailleuses qui tirent la sonnette d'alarme sur l'état de l'industrie depuis des années. Évidemment, ça va pas changer tout du jour au lendemain, mais ça montre que nous, les utilisateuristes, les joueuses, on a quelque chose à faire de cette industrie qui est devenue dysfonctionnelle malgré sa lucrativité. Bon, pour finir un petit peu plus positivement, je voulais faire une petite recommandation qui s'est fait très discrète, car j'ai personnellement au moins eu une belle surprise en 2025 niveau accessibilité. Et oui, c'est celle d'un jeu sorti il y a un peu moins d'un mois, d'un solo dev du nom de Yemako. Le jeu s'appelle assez humblement Unplayable Game, point d'exclamation, point d'interrogation. Alors le concept du jeu, il est très simple, c'est un jeu qui est injouable. Il représente un projet qui est plutôt sincère et efficace pour nous montrer ce que c'est que l'accessibilité lorsqu'elle n'émerge pas de la personne joueuse, mais du jeu directement. Je vous en parle pas plus, je vous invite plutôt à le faire, parce que c'est très court, ça fait environ 10 minutes, mais je le trouve extrêmement pertinent et je vous invite à se tester. Et j'en parlerai peut-être dans le futur, qui sait. Je vais finir sur ça, déjà pour pas mettre le cafard à tout le monde et montrer que oui, en 2025, si une personne en solo dev peut être pertinente sur ce sujet, je pense que ça devrait pas être trop difficile pour de plus grandes structures. Maureen ?
Ouais, bah merci pour ta chronique, parce qu'effectivement ce sujet il est hyper fascinant, hyper complexe, hyper complet aussi enfin, il y a tellement de choses à dire, en fait. Je voulais rebondir sur les différents points parce que ça me paraît important. Tu parlais, par exemple, tu vois, de Expédition 33 ou de Silksong qui avait manqué d'accessibilité. En fait, moi, c'est un peu horrible parce que, ayant été dans l'industrie, je rejoins, enfin, il y a totalement des points où, effectivement, il y a des studios qui ne font pas attention à ça, volontairement ou non, quoi. Mais il y a aussi des studios où, en fait, il y a ce sujet d'accessibilité qui est complètement mis, qui est en danger. Mais en fait, il y a même le sujet globalement de comment dire, enfin, tout ce qui va être ergonomie et utilisabilité, entre guillemets, qui est dans sa globalité en danger. Je rebondis là-dessus parce que, par exemple, Expédition 33, quand j'avais discuté avec eux, ils en étaient à un stade où même les interfaces, un an avant de sortir le jeu, ils n'étaient pas du tout convaincus par ce qu'ils avaient fait et ils ont dû tout retravailler hyper vite avant que le jeu sorte, notamment. Et donc, du coup, je voulais juste dissocier, entre guillemets, certains studios qui, effectivement, ne font pas l'effort de mettre en place des options d'accessibilité parce qu'ils priorisent d'autres choses, parce qu'ils n'ont pas envie de le faire, versus des studios qui sont déjà dans la mouise, entre guillemets, pour faire des interfaces qui sont à minima utilisables et... Pour le coup, Expédition 33, en plus, ils ont eu pas mal de reproches sur l'utilisabilité de leurs interfaces. En fait, il y a tellement de sujets sur ce... Enfin, il y a tellement de points sur ce sujet que du coup, voilà, je voulais juste dissocier ça. Je sais que Silksong aussi... Enfin, Tim Cherry a eu beaucoup de reproches sur le fait qu'ils avaient eu très peu de testeurs. Et donc, du coup, il y a toute cette partie où, effectivement, les studios indés n'ont pas, et c'est ce que tu disais, n'ont pas cette connaissance... et ça, c'est la tristesse de l'industrie du jeu vidéo par rapport au web. C'est que dans le web, tout est, comment dire, documenté, il va y avoir des règles, des choses à appliquer, parce qu'il y a un réel besoin, entre guillemets, derrière, qui est acheté sur un site. Tout le monde devrait avoir les mêmes droits, entre guillemets, les mêmes possibilités et accès aux mêmes infos, alors que dans le jeu vidéo, il n'y a pas du tout ces règles. Et donc, quand j'en avais parlé aux studios, aux différents studios indés, en disant, par exemple, Microsoft, on peut leur reprocher plein de choses, et moi, je suis la première à reprocher plein de choses chez Microsoft, mais c'est vrai que niveau accessibilité, minima, ils mettent à dispo de la documentation pour essayer de faire en sorte que les jeux soient... alors, ils peuvent être plus accessibles encore, mais il y a beaucoup de documentation. Les studios indés n'ont pas accès, en tout cas, on m'expliquait qu'ils n'avaient pas les éditeurs qui leur communiquaient les informations à suivre et à lire à minima pour être accessibles. Et après, c'est l'autre problème que tu disais, c'est qu'il y a trop peu de personnes, par exemple, indies dans l'industrie pour permettre de communiquer sur qu'est-ce qui pourrait être bien dans un jeu. Typiquement, quand on regarde Naughty Dog avec The Last of Us, ils ont travaillé avec les personnes qui ont fait le site Can I Play That. Je ne sais plus comment la personne s'appelle exactement, mais donc c'est une personne qui justement fait ce site-là. Ils ont travaillé avec eux pour rendre le jeu hyper accessible. Mais voilà, du coup, ouais, je voulais ajouter ce point-là qui est hyper frustrant, en fait, parce qu'effectivement, il faudrait plus. Mais en fait, il y a tellement de choses aujourd'hui qui ne fonctionnent déjà pas dans l'industrie pour juste faire des interfaces à peu près utilisables Ouais, enfin, je sais pas, c'est pas très gay, moi aussi, ce que je remonte, mais je trouve ce sujet hyper intéressant. Mais en même temps, je vois tellement de problématiques un peu de partout, aussi bien studios indés qui connaissent pas, qui n'ont pas les règles, qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas le budget, que d'autres qui, au contraire, l'ont et vont mettre en place certaines choses, mais sans plus y réfléchir. Enfin, voilà, quoi. Je sais pas si ce que je raconte mène quelque part ou vous parle, mais j'avais besoin d'en parler.
Ouais, bah c'est ça intéressant. Bah, ça, j'ai un peu la double casquette là, parce que moi je suis dans l'UX et on accompagne des différents studios à différentes étapes de production. J'estime qu'il y a quand même une différence entre tout ce qui est lié à l'accessibilité, donc vraiment ce qui rend ces frictions complètement bloquantes. Typiquement, ça sera très grossier, hein, mais si t'as une marge de 3 mètres pour un trottoir, tu vas pas réussir à la monter et ça sera extrêmement compliqué, sauf si tu fais appel à quelque chose vraiment de très radical pour passer, et vraiment des features d'approchabilité. Par exemple, ça a été théorisé il y a quelques années, je crois il y a 2-3 ans, par les personnes les plus vocales sur l'accessibilité. Mais globalement, j'estime qu'un jeu, s'il prend bien dans son UX dès le début de sa prod, il doit être en capacité de faire des choses qui sont quand même assez fonctionnelles, et ce dès même une vertical slice, donc un moment qui est assez tôt dans la prod. Et en plus, là où je reproche un peu, quel que soit le studio, hein, même si évidemment les indés J'en veux potentiellement moins, mais en même temps, il y a quand même beaucoup d'indés qui font des fois des meilleures options d'accessibilité ou des options d'accessibilité là où
clairement.
Des gros jeux n'en font pas. Vraiment, j'étais assez choquée, par exemple, sur le dernier Horizon. C'était pas fou les options qui étaient proposées non plus. Mais il y a quand même énormément de documentation, de la documentation qui est gratuite. Canal Play Tat est complètement gratuit. Il y a eu du consulting de personnes sur des handicaps très particuliers, notamment visuels. Tu parlais de Last of Us. Last of Us était très solide sur toutes les options qui servaient pour les handicaps visuels. Donc de l'autre côté, j'ai envie de dire, souvent l'argument c'est oui, mais ça coûte de l'argent. Bah, en fait, les ressources elles sont quasi intégralement gratuites. Microsoft, les ressources elles sont gratuites aussi. Donc c'est aussi, je pense, une certaine maturité, un recul que les prods, qu'elles soient jeunes ou pas, doivent intégrer dans leur process. Sandfall, je sais qu'il y avait il y a un petit peu, je connais pas l'équipe en détail, mais il y a quand même des gens qui étaient des anciens d'Ubi. Ubi, c'est des pionniers dans l'UX. On aurait pu, enfin personnellement, de mon point de vue, j'aurais pu m'attendre et espérer qu'il y ait des aménagements qui soient on va dire basique, ce qui n'a pas été le cas. Après, il y a eu des mises à jour, je sais pas à quel point, je sais que ça a quand même apporté pas mal de choses, mais je suis quand même encore assez choquée aujourd'hui qu'il y ait des choses assez basiques qui soient pas là dans un jeu dès son lancement. Nous allons effectuer une première pause musicale avec All Ocean Zone, composée par Masato Nakamura pour l'OST de Sonic 2. Vous écoutez Une Heure des Pixels sur Radio Campus Paris et tout de suite l'entretien avec Maureen.
Bonsoir Maureen, donc comme nous l'a dit Tizona en début d'émission, tu es donc UX et UI designer. On te connaît aussi pour justement pour tes travaux de créatrice de contenu sur YouTube, entre autres. Et déjà, bienvenue parmi nous et on est très heureux de t'accueillir. Tu as déjà eu l'occasion de beaucoup t'exprimer durant l'émission et tous tes éclairages sont le bienvenu et étaient très intéressants.
Merci pour l'accueil, ça me fait très plaisir.
Merci à toi. Donc, on a déjà parlé un peu du X-Design avant, mais on va quand même revenir là-dessus. Mais avant toute chose, j'aimerais que tu nous parles un peu de toi et surtout que tu nous dises quel a été ton parcours pour que tu deviennes justement What the Fux aujourd'hui. Qu'est-ce qui a fait que tu deviennes cette créatrice de contenu qui perce, n'est-ce pas, sur les réseaux sociaux? Quelles ont été tes études, ton parcours professionnel?
Ouais. Voilà. Effectivement, c'est une question qu'on me pose pas mal. Alors, pas tant pour la création de contenu, mais plus pour l'UX design, parce que c'est un métier qui est pas mal méconnu, encore plus dans le jeu vidéo, je trouve. Et en fait, il n'y a pas qu'un seul parcours pour y accéder. Moi, pour le coup, ça a été un peu... je dirais pas chaotique, mais j'ai commencé, j'ai fait médecine, rien à voir. Au bout de plusieurs mois, en fait, je suis partie de médecine parce que ça ne me correspondait pas du tout. Je me suis retrouvée en école de commerce, donc je n'allais pas du tout faire de UX design à la base. Sauf qu'en fait, bah, le marketing et la communication, ce n'était pas spécialement ce qui me plaisait. Donc après 4 ans bachelor en école de commerce, j'ai décidé de partir à la fac pour me spécialiser beaucoup plus dans le design, dans tout ce qui va être la data analyse, etc. Donc ça, c'était mon master 2. Et suite à ce master 2, j'ai pu décrocher un poste directement en CDI, en agence web. Donc, j'étais pas dans le jeu vidéo. J'étais en agence web où j'ai pu faire mi du web marketing, mi de l'UX design. C'était moitié-moitié. C'était juste avant le Covid. C'était un moment où les agences cherchaient justement des profils qui étaient un peu double casquette. C'était à Grenoble. Donc, pour le coup, petite agence qui essayait d'avoir des profils un peu licorne. Et au bout de 6 mois, il y a le Covid qui est tombé. Plus personne n'avait envie de faire de la communication sur les sites internet de ce qui se passait IRL, parce que du coup, plus personne ne pouvait sortir. Et donc, du coup, j'ai eu l'opportunité de complètement laisser tomber le web marketing qui ne me plaisait pas tant que ça, parce que donc, du coup, faire de la pub aux personnes, targeter, enfin, cibler les différentes personnes en fonction de leur profil, ça ne me plaisait pas beaucoup. Par contre, l'UX design, j'ai pu beaucoup plus le continuer. Et donc, je me suis spécialisée spécifiquement en UX design pendant 3 ans, du coup, dans cette agence web. Et au bout de 3 années, je me suis dit, mais en fait, je ne sais pas si j'ai envie de designer toute ma vie des sites internet pour répondre à des besoins. En fait, bon, enfin bref, le web, de manière générale, c'est très rodé, entre guillemets. Il y a beaucoup de code. Il suffit un peu de regarder un autre site web, entre gros guillemets, pour se dire, bah voilà comment on crée notre expérience à nous. Si jamais on a envie de faire une expérience qui est hyper stylée, en fait, on est très vite bloqué par le client qui veut rester très sobre. Et donc, je me suis dit, bah, est-ce que je pourrais pas tenter de faire de l'UX design dans le jeu vidéo ? Et c'est là que j'ai découvert Célia Audan, Steve Brumley, qui parlait du coup du UX design, d'ergonomie, de recherche utilisateur. Et j'ai refait tout mon portfolio. Et je me suis dit, tant pis, je teste d'envoyer ma candidature, notamment à Sobo Studio. Et j'ai été prise. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai quand même dû passer du coup de Grenoble à Bordeaux, parce qu'il n'y avait pas le télétravail à ce moment-là. Du coup, bah, c'est en rentrant dans l'industrie que j'ai découvert à quel point c'était complètement différent que ce que j'imaginais. Moi, j'étais une grosse joueuse, enfin, grosse joueuse. Je joue depuis que je suis... Enfin, je ne me rappelle même pas l'âge auquel j'ai commencé. C'est mon père qui m'a initiée à tout ça. Mais voilà, c'était complètement différent par rapport à ce que je m'imaginais. Et je me suis dit, il faut que j'en parle, en fait, sur les réseaux, enfin, sur YouTube, parce qu'il y a trop de choses à dire et trop peu de personnes qui en parlent et encore moins de personnes qui parlent de l'UX design au sein du jeu vidéo. J'avais envie de rendre ça plus accessible et de manière ludique pour que n'importe qui puisse y accéder et ne soit pas obligé, entre guillemets, de creuser des vidéos, de creuser tout YouTube pour trouver des conférences GDC qui parfois sont uniquement en anglais, qui sont assez longues. Donc c'est comme ça que j'ai lancé la chaîne What the Fux. Voilà.
Et du coup, faut quand même qu'on en parle à un moment ou à un autre, mais parce que c'est peut-être pas clair pour tout le monde, mais est-ce que tu peux brièvement nous expliquer ce que c'est que l'UX et l'UI design, et surtout quelle est la différence entre les deux ?
Ouais, c'est vrai que c'est énormément... Enfin, les deux métiers sont souvent très confondus. Il y a même des personnes souvent qui viennent me mettre des commentaires YouTube en me disant « Tu confonds UX et UI ?» alors que non. Mais en fait, l'UX... Enfin, comment dire ? Pour faire de l'UI, donc l'UI, ça veut dire User Interface, il y a forcément de l'UX Design qui est réfléchi à côté. Et UX, ça veut dire User Experience. Pour donner une métaphore, ou en tout cas donner une image qui peut paraître un peu claire à tout le monde, moi, je vois l'UX Design comme par exemple l'architecte qui va imaginer les plans d'une maison, comment on va placer justement à différents endroits les murs porteurs, pas murs porteurs, etc., etc. Et l'UI Designer qui, lui, va être plus le décorateur d'intérieur. C'est très grossier, comme je l'explique, mais voilà, tout ce qui est UX design, c'est penser les interfaces, donc c'est-à-dire les infos qu'on va mettre dedans, la hiérarchisation de l'information, comment on l'organise, comment on structure les pages, et surtout, enfin, c'est pas juste, par exemple, j'ai un inventaire, je design mon inventaire, non, c'est qu'est-ce qu'un utilisateur va pouvoir faire, enfin, un joueur, est-ce que le joueur doit pouvoir, je sais pas, avoir du détail sur chacun de ses items, équiper ses items, jeter son item, est-ce que, bah, quelle va être l'information la plus importante, le détail, l'image de l'item qui est directement mis sur le personnage, du coup, qui est mis en grand, et ensuite, lui, ça va être comment on sublime, entre guillemets, cette architecture. Donc tout ce qui va être le choix de la police, la direction artistique et la mise en page, la mise en forme entre guillemets. Donc pour faire de la UI, il faut forcément de l'UX, mais pour faire de la UX, il faut pas forcément de la UI.
Pour accrocher en fait tout ce que tu dis sur l'UX et l'UI design, à ton, justement à ton activité de créatrice de contenu. Tout récemment, tu as sorti ta dernière vidéo sur les jeux d'horreur, et donc sur tous les procédés utilisés par les jeux d'horreur pour créer le sentiment de peur et d'angoisse chez les joueurs. Et en regardant cette vidéo, moi, ça m'a fait réaliser que l'UX design, il touche un peu à tout, en fait, parce que dans ta vidéo, tu vas parler de la lumière, donc vu que les jeux d'horreur jouent beaucoup sur l'obscurité et la lumière, et sur le sound design aussi, et même sur les angles de caméra, les... Enfin, plein de choses, quand même, des éléments de game design en général, quoi. Et bah, c'est, du coup, ça m'interroge sur est-ce que l'UX designer, il doit pas être un peu partout, finalement, et est-ce que ça fait pas un peu beaucoup de travail pour une personne, enfin, pas pour une personne, parce que t'es peut-être pas toute seule, quoi. Mais justement, c'est une question intéressante, combien vous êtes quand vous bossez dans l'UX design, et voilà, est-ce que ça fait pas beaucoup de travail, tout ça?
Alors, effectivement, en fait, c'est vrai que souvent, quand je parle de l'UX design, les gens me disent, bah non, mais ça, c'est du sound design, ou ça, c'est du level design, ou ça, c'est du game design, c'est pas de l'UX design. Déjà, en fait, c'est vrai qu'à la toute base, l'UX design, c'est un métier qui n'existait pas, enfin, qui est arrivé que très récemment. Il existait, mais sans qu'on l'ait nommé. C'est-à-dire qu'un bon game designer pensait l'expérience utilisateur sans avoir à se dire, bah tiens, là, je suis en train de faire de l'UX design, quoi. C'est un métier qui est arrivé bien, bien après et qui a pour objectif, parce que tout est segmenté aujourd'hui, de se dire, OK, j'essaie de faire en sorte que l'expérience utilisateur globale dans mon jeu est cohérente, que ce soit entre les interfaces qu'un UI designer va designer, entre ce que la mécanique qu'a imaginé le game designer, le son qu'un sound designer va mettre, etc., etc. Ça dépend aussi de beaucoup des studios. Il y a des studios, ils vont faire venir des UX designers que, par exemple, en consulting, plus en fin de production. Il y a d'autres studios qui vont avoir uniquement des user researchers, donc qui ne designent pas, mais qui vont faire des tests joueurs, en fait, des playtests, et qui vont rapporter ce qui marche, ce qui ne marche pas, et de potentielles solutions. Mais moi, par exemple, quand j'ai travaillé justement chez Asobo Studio, j'avais cette chance d'être là du début jusqu'à la fin de la production et d'être hyper transversale avec tous les métiers. Du coup, ce que je designais, moi, à proprement parler, c'était les interfaces du jeu, les flows du jeu, les différents use cases qu'un joueur pouvait rencontrer. J'aidais énormément les game designers à sublimer, entre guillemets, leur mécanique, à faire en sorte que ça fonctionne bien, que ce soit clair et cohérent pour les joueurs. Mais c'était pas moi qui créais les mécaniques, c'était pas moi qui faisais la UI, la direction artistique, et c'était pas moi qui créais, entre guillemets, le sound design. Moi, j'allais travailler, par exemple, avec les sound designers en disant, OK, je connais tout le jeu parce que j'ai fait les différents flows avec les game designers. Ici, vous arrivez à telle étape, il va falloir qu'on ait un son qui pète parce que j'en sais rien, on est en fin de mission, il y a un truc hyper cool qui arrive, il faut que le joueur ait vraiment cette sensation de j'ai réussi. Et donc, je guidais les sound designers à faire le bon... Enfin, c'est pas moi qui le faisais, mais tu vois, je les guidais dans leur choix de son par rapport à toute l'expérience que je connaissais du jeu. Alors qu'eux ne connaissaient pas exactement quelle était ne savaient pas exactement quelle était l'intention de game design. Par exemple, j'ai travaillé aussi avec... des animateurs. Et donc, pareil, les animateurs, l'objectif, c'était de leur dire, ben voilà, les différentes animations qu'on va pouvoir avoir dans le jeu, quel screenshot on veut avoir, par exemple, d'animation en fonction des différents endroits dans le jeu. Donc, c'est pas l'UX designer qui va tout faire, mais en tout cas, il est transversal à tout parce que ben, son métier, c'est faire en sorte que l'expérience soit cohérente. Et ensuite, le nombre d'UX designers qu'il y a par production, ça dépend vachement. Par exemple, tu vois, nous, on était 4 UX designers à proprement parler, dont une qui faisait à moitié user researcher, mais on était attribués sur les différents modes de jeu. Donc par exemple, moi j'étais que sur le mode de jeu de la carrière de Flight Sim, quand d'autres personnes étaient uniquement sur le mode de jeu de course ou le mode de jeu de sandbox, etc., etc. Donc, ça dépend vraiment des studios, ça dépend des budgets, ça dépend de à quel point les directeurs sont d'accord, enfin en tout cas connaissent l'UX design et se disent ok c'est pertinent et que ça, c'est pertinent d'avoir un UX designer en plus d'un game designer, donc ça varie quoi.
Ok, ouais. Et justement quand tu l'UX design, on l'a bien compris, il faut, c'est en rapport direct avec la façon dont le joueur en fait, je sais pas comment on peut dire ça, la façon dont il est réceptif ou pas au jeu en fait, c'est ce que tu disais, le terme que tu emploies, le flow en fait, c'est ça qui est important, c'est
ouais.
Ce que tu alors, qualifies de flow.
Le flow c'est très propre au game design, ça pour le coup c'est comment faire en sorte pour faire rentrer un joueur dans un état de flow, donc un état presque de transe. L'UX design va jouer là-dedans aussi, mais ouais, l'UX design c'est vraiment se dire comment faire en sorte que l'expérience utilisateur soit la plus fluide et intuitif pour le joueur, tout en étant raccord avec l'intention game design. Et ça, c'est un sujet que je trouve hyper intéressant aussi, parce qu'il y a des personnes qui vont dire, par exemple, que, je sais pas, les Souls-like sont des jeux qui ont une expérience utilisateur atroce, alors qu'en fait, c'est discutable. C'est une expérience utilisateur qui est propre à une cible spécifique. Mmh. On va pas faire une même UX pour un Animal Crossing que pour un Elden Ring, ou pour, j'en sais rien, un Forza Horizon, quoi. Il y a plein, enfin comment dire, l'UX design est vu comme très scientifique, et ça aussi c'est un autre problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes dans les studios qui disent bah, c'est très scientifique alors que nous on est un milieu artistique, on veut pas justement de règles très claires et autres, mais en vrai, si l'UX designer est bien intégré dès le début de la production, travaille avec les game designers et qu'il y a toute une harmonie autour des différents métiers, à la fin, c'est un jeu qui est hyper cohérent dans toute son expérience, où du coup, c'est fluide et intuitif pour les joueurs, c'est agréable, et surtout, ça sublime les mécaniques des game designers, la manière dont on veut retranscrire certaines choses. Et tu vois, tu parlais tout à l'heure des jeux d'horreur. Les jeux d'horreur, pour moi, alors ça dépend lesquels, il y en a certains, ils ne l'ont pas forcément fait exprès, mais il va y avoir, par exemple, Signalis, une vraie intention de créer de la friction dans les interfaces, dans le déplacement du personnage, dans la manière de tirer, dans la compréhension de l'histoire aussi. Et pour moi, justement, c'est une bonne UX. Ils n'ont pas forcément du UX designer, d'ailleurs, hein, mais c'est une bonne UX parce que tout le jeu entier transpire la même expérience, quoi.
Oui, je vois ce que tu veux dire, c'est vrai. On parlait déjà de Signalis dans la précédente émission, donc ça va devenir le leitmotiv d'une heure et des pixels, et c'est jouer à Signalis.
Il est vraiment trop bien.
Et d'ailleurs, en parlant de Signalis et de jeux d'horreur, on voit aussi, il y a l'UX a un rapport, tu le disais, c'est, les gens voient ça comme une science, et justement, tu fais appel, enfin, les UX designers font appel à la psychologie, finalement, à des notions de psychologie, en tout cas. Je sais pas dans quelle mesure, justement, c'est... comment dire ? À quel point la psychologie, c'est un domaine important quand on le rattache à l'UX design ? Comment tu abordes cette question-là ? Parce que tu n'as pas fait d'études de psychologie, mais donc forcément, tu dois te documenter et faire des recherches là-dessus, j'imagine.
Ouais, c'est effectivement la psychologie. Enfin, très clairement, les personnes qui ont fait des études en psychologie ont un gros avantage pour devenir UX designer, parce qu'il y a énormément de notions sur tout ce qui est cognitif qui interviennent dans l'UX design. Célia Audan, d'ailleurs, a un très bon livre, c'est « Dans le cerveau du gamer », qui raconte justement un petit peu tout ça. C'est vrai que je crois qu'il y a eu tout un débat à un moment, des ergonomes qui n'étaient pas contents qu'il y ait des UX designers qui se proclament UX designers sans avoir des études de psychologie et d'ergonomie, quoi. Mais oui, tout ce qui va être la mémoire, justement toutes les explications de... Il y a la mémoire, en fait, qui va être prise en compte. Il y a la perception, comment le joueur va interpréter ce qu'il voit. L'attention, comment on fait en sorte qu'un joueur, justement, remarque certaines choses. La prise de décision aussi, justement, comment ça va se passer. Et tout ça, c'est lié à énormément, justement, de sujets, de notions cognitives, quoi. Par exemple, dans un jeu, on ne s'en rend pas forcément compte parce que là, on parlait des interfaces, mais en UX, on va faire en sorte qu'il y ait des feedbacks qui soient explicites, des rappels d'objectifs sans que ce soit forcément un panel en haut à gauche qui te dit juste voilà ce qu'il faut que tu fasses. Va y avoir tout ce qui va être des techniques de comment on fait pour faire retenir un combo de 6 touches. On va pas te mettre juste un panel devant la tête, il faut que tu retiennes par cœur et voilà. On va essayer de te le faire revenir plusieurs fois, de te mettre dans des situations qui vont faire que du coup, c'est contextualisé, tu vas pouvoir mieux mémoriser. Il y a plein de choses comme ça, justement, qui vont être utilisées, qui sont scientifiques, hein, pour faire en sorte que les joueurs comprennent bien, mémorisent bien, interprètent bien. Tout le sujet des affordances aussi, ça c'est fascinant, genre c'est vraiment passionnant, comment le cerveau humain fonctionne et comment il va interpréter certaines choses du jeu vidéo. Typiquement, un mur dans Zelda qui a des pierres un peu cassées et le cerveau se dit directement « Ah, les jeux vidéo m'ont appris qu'il faut péter le mur à cet endroit-là ». C'est pas que le jeu vidéo, c'est scientifique, c'est ce genre de choses et c'est utilisé du coup parce que justement ça fonctionne. Donc oui, très clairement, l'UX est étroitement lié à la psychologie et à tout ce qui est sciences cognitives, quoi. Et aux neurosciences, quoi, de manière générale.
Et une dernière question, juste comme ça, là, pour terminer. Est-ce que tu as une hot take sur la peinture jaune, l'utilisation abusive de la peinture jaune dans les jeux vidéo ?
J'ai conscience qu'effectivement, il y a beaucoup de joueurs qui trouvent que c'est exagéré. Il y a certains jeux qui, effectivement, en exagèrent. Mais on en avait déjà parlé un petit peu tous les deux. Mm-hmm. Et j'avais vu pas mal de documentation là-dessus aussi. Alors, moi, j'ai moins eu soucis sur Flight Sim ou sur Baldur's Gate, mais... quand j'ai fait du consulting pour Baldur's Gate, mais il y a beaucoup de personnes, de level designers notamment, qui parlent de ça. J'avais assisté à une conférence aussi du level designer de Horizon Forbidden West, qui avait expliqué que c'était des choses qui fonctionnaient dans les différents jeux, et qu'aujourd'hui c'était difficile d'en sortir, parce qu'ils testent, hein. Les level designers testent de sortir de ça, testent d'autres manières de guider les joueurs en utilisant la lumière et autres, mais parfois ça fonctionne pas. Et du coup, la dernière technique à utiliser, c'est la peinture jaune, ou en tout cas faire en sorte qu'il y ait des éléments qui ressortent bien plus. Et donc du coup, c'est mieux d'avoir justement cette peinture jaune qui fait un peu grincer des dents, enfin les joueurs qui vont dire ah mais c'est nul, ça aurait pu être plus naturel et autres, plutôt que d'avoir des joueurs qui sont complètement perdus et qui vont râler sur le fait que le jeu, on n'arrive pas à le lire, on sait pas où aller, en fait c'est trop frustrant, et qui abandonnent le jeu. Donc voilà, moi ma hot take, c'est aujourd'hui c'est un peu compliqué, les studios essaient de faire différemment. Je connais pas tous les studios, mais en tout cas ceux avec qui j'ai parlé ou à qui j'ai regardé les différentes conférences. Et il vaut mieux avoir un jeu qui est pas trop naturel et qui fait grincer les dents, mais en tout cas le joueur arrive à savoir où il doit aller, plutôt qu'un joueur qui râle parce qu'il sait pas où aller et qui arrête de jouer, quoi.
Mmh. Oui, c'est vrai. Bah écoute, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Ça a été un plaisir de discuter avec toi.
Bah merci à toi. Plaisir partagé.
L'entretien continue après la deuxième pause musicale. Nous écoutons The River, composé par Andrew Pralo pour l'OST de Outer Wilds, Echoes of the Eye. Vous écoutez Une heure et des pixels sur Radio Campus Paris et nous retrouvons Maureen Micole pour la suite de l'entretien. Alors là, normalement, Maureen, je dois te demander pourquoi tu as choisi ce morceau, mais je crois que j'ai une petite idée sur la raison qui fait que tu as choisi un morceau de Outer Wilds. Est-ce que tu peux nous en dire plus?
Outer Wilds, personnellement, moi, je pense que c'est mon top 1, littéralement, de jeux préférés. Il y a Signalis qui est arrivé il n'y a pas longtemps et qui concurrence aussi, mais je trouve que c'est un jeu qui a toute une expérience assez ouf, que ce soit aussi bien dans les musiques, le sound design, la manière dont on fait découvrir l'histoire aux joueurs, l'exploration. Il n'y a pas de tuto, il n'y a pas de pop-up, il n'y a pas de liste de quêtes, il n'y a pas d'inventaire ou quoi que ce soit, et pourtant, toute l'expérience est vraiment hyper bien réfléchie, hyper propre, et ils n'ont pas du UX designer à proprement parler. Ils ont une narrative designer, mais qui du coup a à peu près les mêmes problématiques que l'UX design, Kelsey Beachum. C'est pour tout un tas de raisons que j'adore ce jeu, aussi bien personnellement parlant en tant que joueuse que en tant que designeuse.
C'est clair. Gomeïsa, tu avais quelque chose à demander à Maureen ?
Ouais, c'était sur les notions de difficulté. Et effectivement, depuis que je suis tout petit, c'est genre easy, medium, hard. Et il y a toujours eu ce côté un peu... si je prends le mode facile, c'est que du coup, je suis un peu nul. Enfin, il y a toujours ce mélange entre le fait de jouer à des jeux vidéo et d'avoir une certaine expertise, ou en tout cas une certaine compétence, enfin, qui est toujours très très liée à la pratique des jeux vidéo. Et je trouve que c'est chouette, depuis quelques années, du coup, d'avoir, de plus avoir du coup mode, presque en sous-texte, le mode nul et le mode balèze, et d'avoir plutôt, genre, moi je suis concentré vraiment sur l'histoire, j'ai envie d'explorer ce lore, et j'ai envie de plonger dans l'intrigue, et puis bah, un mode tel qu'il est entendu par les gens qui ont créé le jeu, avec une expérience équilibrée, et puis du coup le mode, vraiment, moi je veux du challenge, je suis là pour me prouver un truc. Je trouve ça chouette d'avoir un peu changé... d'avoir un peu changé du coup ces trois modes, on va dire, qui avaient une connotation un peu négative, et d'avoir mis à la place du coup ce qu'on trouve aujourd'hui. Je trouve ça chouette.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Il y a, en fait, les jeux qui gardent encore ce système de choisir est-ce que tu veux simple, médium ou compliqué, mais qui l'ont transformé en ce que tu racontes, en fait, je veux profiter de l'histoire, je veux un peu de challenge, ou je veux que ce soit hyper compliqué. J'adore la reformulation. Je sais qu'il y a Julien Éveillé sur Threshold qui lui a dit, je crois que c'est je veux l'expérience complète, ou je le formule mal, hein, parce qu'il l'a pas dit comme ça, mais c'était quelque chose du style j'ai quelques problèmes d'attention ou des choses comme ça. Et je sais que pour le coup j'avais été trop contente, moi, de voir ça, parce que j'étais en live quand je l'ai fait, et moi j'ai vraiment des soucis d'attention au début, le temps de me mettre dans le jeu, et quand j'ai vu ça je me suis dit ah oui, c'est cool comme il a formulé. Alors moi, comme je l'ai dit là, c'est mal formulé, il l'a pas fait comme ça, mais c'était bien dit. Et maintenant, ouais, il y a de plus en plus de jeux aussi qui essaient de créer des expériences, enfin, qui proposent des difficultés, pas en te le disant, tu vois, comme ça, mais plus en te proposant des... Bah, par exemple, Elden Ring qui te propose une classe différente, quoi. Genre, t'as pas à choisir simple, facile, difficile, tu choisis une classe, et en fait, c'est une classe qui va faire que ça va être beaucoup plus simple pour toi. Ou il y a encore la difficulté adaptative, et ça, c'est encore une autre solution qui fait que tu te rends pas compte que le jeu est en train de s'adapter à ton gameplay, en fait. Et je sais que ça frustre certaines personnes de se dire « Ah bah mince, le jeu était en train de jouer avec moi en mode super facile, parce que j'ai pas réussi à battre trois fois le big boss, quoi. »
Knappel, tu voulais dire quelque chose ?
Oui, moi j'avais une question qui peut être liée justement à la discussion que vous venez d'avoir. C'est, on sait que dans le jeu vidéo, il y a peu de documents qui sont gardés sur chaque développement, ou alors c'est assez flou, ou alors, enfin, pour des questions de RGPD, pour des questions de fuite de données, etc. Il n'y a pas beaucoup d'archivage des méthodes dans le jeu vidéo, et je voulais savoir du coup pour l'UX qui est assez jeune quand même comme discipline, qu'est-ce que vous apprenez en fait, comment ça se passe l'apprentissage de l'UX du jeu vidéo, d'une industrie qui a tendance à cacher beaucoup de secrets et ou à ne pas garder beaucoup de notes de comment s'est déroulé un développement, et ou à virer les gens et les faire avec un coup de pied au cul et les papiers dans la main, quoi. Donc comment ça se passe, en fait, pour apprendre l'UX du jeu vidéo spécifiquement ?
Ah, purée, tu sais que, genre, elle est trop intéressante, ta question, parce que, alors moi, genre, c'est... Notamment quand je suis arrivée en studio de JV, je me documente tout. Et parce que en fait, il n'y avait rien, quoi, tu vois. Et,
ça m'étonne pas.
Mais ouais, vraiment, et c'est ça qui est ouf. En fait, il n'y a rien, même pour les game designers, même pour... Enfin, après, je ne sais pas comment ça se passe dans tous les studios de jeux vidéo. J'espère qu'un Ubisoft, tu vois, il y a plus de documentation.
Ouais, il faut y accéder.
Qui parfois effraie, tu vois, les dirigeants, parce qu'ils sont en mode, non, mais on reste créatif, on ne veut pas, aussi, tu vois, avoir trop de documentation et trop de process. Mais moi, tu vois, l'UX design, je sais que quand je suis arrivée, le web m'a énormément aidée. Il y a beaucoup de personnes, ça va les étonner, mais le web m'a beaucoup aidée parce que j'avais plein de structures, plein de documentation sur comment faire des playtests, tu vois, par exemple, comment designer des interfaces correctement, comment... Donc, il y avait déjà toute cette base-là. Par contre, comment faire un jeu vidéo, genre en mode, comment t'imagines les flows des utilisateurs, comment tu aides les mécaniques des game designers, comment tu penses une interface de jeu qui est complètement différente d'une interface de web. Là, pour le coup, moi, je sais que c'est la documentation, et c'est pas suffisant, hein, mais de Célia Audan qui m'a vachement aidée, de Steve Bromley, des conférences GDC, et j'avais mis en place tout un Notion.
Yes, Notion.
En gros, je faisais des... Ouais, c'était vraiment full Notion. J'étais Notion girl, quoi, et toujours aujourd'hui. Où en fait, dès que je découvrais un jeu, parce que moi, c'est un truc qui m'a insupporté en studio, beaucoup de personnes, en fait, vont me donner des exemples en disant « Mais si, je sais, dans tel jeu, c'est comme ça l'interface. » Et t'as aucun moyen de le vérifier. Et en fait, souvent, il y a des biais. Enfin, tu penses te rappeler correctement des choses, mais pas du tout. Et donc, du coup, dès que je jouais un jeu, dès que je testais un jeu, je faisais des captures d'écran et je rentrais tout dans Notion avec des tags pour dire bah, « À chaque fois que quelqu'un va mentionner un jeu, moi, je me débrouille pour aller faire une capture d'écran et on regardera, tu vois. » Et pareil pour un peu tout, les interfaces qu'on faisait. Genre, en gros, moi, j'essayais d'en faire de la doc en disant « Voilà comment c'est censé fonctionner. » Parce que pareil, les devs, quand tu leur envoies une interface que t'as faite toi, qu'est-ce qui te dit que l'autre UX designer va pas penser les choses de la même manière ? Truc tout bête, tu fais back, est-ce que ça te remet, j'en sais rien, sur la bonne ligne tout en haut de l'interface précédente ? Est-ce que ça sauvegarde tes infos ou pas ? Et c'était plein de codes comme ça qu'il fallait mettre en place. Mais du coup, pour répondre à ta question de comment t'apprends l'UX design, le seul conseil que j'ai, c'est regarder les conférences GDC, tester les jeux à droite à gauche, lire les bouquins de Steve Broomley, de Célia Audan. Bien évidemment, tout ce qui va être ergonomie, tout ce qui va être sciences cognitives, essayer de le lire à fond. Mais il n'y a pas... alors, pour ces choses-là, tu peux le mesurer, tu peux le travailler, tu peux faire attention à tout. Mais tu ne peux pas te dire, j'apprends l'UX design par cœur et toutes mes interfaces ressembleront à ça, tu vois. Parce que sinon, bah, tous les jeux se ressembleraient et on s'ennuierait aussi. Mais ouais, c'est assez compliqué. Mais je pense que c'est le même problème pour le game design, pour le level design. À chaque fois, je demandais aux gens en disant, comment vous faites le game design ? En fait, est-ce qu'il y a un process ? Est-ce qu'il y a un truc ? Bah, tous les game designers, même indé ou pas indé, m'ont donné des trucs complètement différents. Je trouve que c'est trop mal documenté. Et tu vois, quand je vois Elon Musk qui essaie de faire son jeu IA, purement IA, et qui dit bah, pour l'instant, on lui donne de la documentation game design pour qu'elle apprenne à comment designer un jeu, je me dis bah, je veux bien qu'il m'envoie la documentation qu'il a trouvée, parce que même nous, on n'en a pas. Quoi, donc,
écoute, je lui écris ouais. De ce pas. Non, c'est faux. J'ai envie de le connaître.
Non.
Mais merci. En tout cas, effectivement, c'est un peu la réponse que je m'attendais un petit peu à ça, j'avoue. Mais merci.
Encore merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Maureen. Ça a été un plaisir et on a appris plein de choses.
Tout pareil.
Eh bien, merci beaucoup pour cette interview. Et tout de suite, le magnéto d'Anna sur le sujet de comment les fans se réapproprient les jeux pour créer de nouvelles choses.
Hello, hello à tous. Du coup, je vais vous parler aujourd'hui des fans quand ils deviennent créateurs. Quand on parle de jeux vidéo, on pense aux studios, aux éditeurs, aux équipes artistiques. Bref, à celles et à ceux qui fabriquent les jeux. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que la création ne s'arrête pas au produit. Parce qu'une fois le jeu sorti, quelque chose d'autre commence. La créativité des fans. En recherche vidéoludique, on parle de réappropriation, de détournement. C'est-à-dire de la manière dont les joueurs transforment le jeu, le prolongent, le réécrivent. Henry Jenkins, chercheur américain, a soulevé le concept de « culture participative » pour justement évoquer cette attitude où le public n'est plus spectateur mais acteur. Et du coup, cette culture participative, qu'est-ce que ça donne ? D'abord, il y a les fangames, ces jeux créés entièrement par des passionnés. Undertale, avant de devenir un succès mondial, était inspiré de Earthbound, un jeu culte des années 90. Certains fans sont même allés jusqu'à recréer un jeu disparu, traduit dans une autre langue ou adapté à une nouvelle génération de joueurs. Ces jeux ne sont pas seulement des hommages, ils témoignent d'un besoin de continuer à faire vivre un univers quand l'industrie, elle, est passée à autre chose. Ensuite, il y a les fanfictions, ces réécritures d'univers ou de personnages. On y explore des romances jamais officialisées, des points de vue secondaires ou même des scénarios alternatifs. Et si ce boss n'était pas l'ennemi ? Et si ces deux personnages vivaient une romance ? Ces récits, présents sur Wattpad, Archive of Our Own ou Discord, montrent à quel point les frontières d'un jeu sont poreuses. Ce qui était fixe devient malléable, modifiable, discutable. La réappropriation passe aussi par l'image. On le voit avec les fanarts, les illustrations, les peintures, les animations réalisées qui appuient ou détournent l'œuvre d'origine. Sur TikTok ou sur Instagram, certains artistes imaginent des versions vieillies des personnages ou les replacent dans d'autres époques. Là encore, le jeu devient une peinture que le joueur se plaît à travailler sur une toile blanche. Il existe aussi tout un monde moins connu du grand public, celui des machinima, ces films réalisés à partir d'images de jeux vidéo. Les Sims, Fortnite ou encore Halo ont vu naître de véritables courts-métrages narrés, montés et diffusés sur YouTube. Le jeu devient un studio de cinéma à bas coût, accessible à toutes et à tous. Et puis, il y a le cosplay, qui est peut-être l'exemple le plus visible. Ici, le joueur incarne physiquement un personnage, mais il ne se contente pas d'imiter, il interprète. Il imagine une gestuelle, une voix, une attitude. Il devient co-auteur du personnage au même titre que l'équipe qu'il a créée. Pour beaucoup, c'est une manière d'appropriation affective, mais aussi sociale, car le cosplay rassemble, fédère, crée du lien. Ce qui relie toutes ces pratiques, c'est qu'elles ne sont pas imposées par l'industrie. Elles naissent spontanément, gratuitement, sur le temps libre. Et certains sociologues parlent même de fan labor, un travail créatif non rémunéré, mais profondément valorisant pour les industries. Et c'est là que réside le cœur du phénomène. Les fans ne cherchent pas seulement à prolonger une expérience de jeu, ils cherchent à exister dans cet univers, à y laisser leurs traces. D'ailleurs, cette créativité n'est pas marginale. Elle influence parfois l'industrie elle-même. Certains studios embauchent des artistes découverts sur Instagram, reprennent des théories inventées sur Reddit ou s'inspirent de personnages popularisés par les fans. Les frontières entre créateurs professionnels et amateurs deviennent floues. On parle alors de co-création, voire de convergence culturelle. Alors, qu'est-ce que tout ça nous dit ? Que les jeux vidéo ne sont pas des œuvres figées. Ce sont des espaces vivants, mouvants, collaboratifs. Ce sont des terrains d'expression, d'expérimentation, d'identité aussi. Les fans ne prolongent pas seulement les jeux. Ils les réinventent, ils les questionnent, ils les complexifient. Ils en deviennent, quelque part, les gardiens. Et si on veut comprendre les jeux vidéo aujourd'hui, il ne suffit plus d'étudier les créations des studios. Il faut observer ce que les joueurs en font. Il faut observer l'expérience de jeu qui se prolonge au-delà du jeu lui-même. Car parfois, la plus belle suite d'un jeu, ce n'est pas celle qui est développée par les studios, mais plutôt celle qui est développée par ses joueurs et ses joueuses.
Eh bien, maintenant, nous allons passer à la discussion de fin d'émission qui sera lancée par Queen et qui concerne les usages et les mésusages de l'IA dans le jeu vidéo.
Et oui, exactement. J'ai lu un article récemment qui vient du site Automaton Media qui citait le CEO de Nexon qui disait qu'il était important de considérer que toutes les entreprises de jeux vidéo utilisaient désormais de l'intelligence artificielle. Et du coup, je me suis dit, je vais profiter de cette petite take de ce cher CEO pour en discuter un petit peu avec vous. Où est-ce qu'on en est en fin 2025 de l'utilisation de l'IA dans le jeu vidéo ? Est-ce que vous constatez qu'il y a des usages dans les jeux que vous utilisez ? Parce que, effectivement, quand on regarde les statistiques Steam, il y a désormais des catégories à part, il y a du contenu référencé, intelligence artificielle qui est mentionné dès la liste de jeux sur la bibliothèque, etc., et sur le store. Voilà, je voulais discuter un peu de ça avec vous. Est-ce que c'est une fatalité aussi d'avoir de l'intelligence artificielle dans le jeu vidéo ? Et surtout, je voulais demander à notre invité What the Fux, pour toi, ça donne quoi l'intelligence artificielle dans l'UX ? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans cette découverte de qu'est-ce que ça donne ? Parce que d'après l'entretien que tu viens d'avoir avec Maxime, je veux dire, c'est quelque chose de très humain, j'ai l'impression, l'UX. C'est vraiment essayer de faire comprendre à l'autre, se mettre à la place de l'autre, etc., etc. Donc, qu'est-ce que l'IA peut faire pour vous ? Voilà, je voulais discuter un peu de ça avec vous. Donc, si tu veux commencer par nous dire, est-ce qu'il y a déjà de l'IA dans l'UX ? Et si oui, comment ça marche ? Comment ça se passe ? Et à quel moment ça se casse la gueule ?
Ouais. Alors c'est très malheureux et moi ça m'embête de le dire. Moi j'utilise pas d'IA, j'ai pas utilisé d'IA pour faire du design parce que c'est ce que tu dis, je considère que c'est quelque chose de fondamentalement humain et donc si tu vas demander à une intelligence artificielle de t'aider à faire des interfaces ou des flows, c'est quand même particulier. Mais je sais qu'il y a effectivement des studios qui, par exemple, n'ont pas d'UX designer et vont demander à l'IA de faire des wireframes. Et donc du coup tu vois des interfaces basiques, blocking de à quoi ça pourrait ressembler pour m'aider ensuite à travailler ma UI. J'ai du coup par curiosité, moi j'ai testé pour voir ce à quoi ça ressemblait. Je trouve que l'intelligence artificielle aujourd'hui en fait sort un peu des choses basiques, c'est-à-dire que tu vas lui dire à quoi tu en fait il faut déjà que tu réfléchisses énormément à quoi tu veux que ton interface ressemble pour qu'elle essaie de sortir quelque chose, mais derrière elle réfléchit fondamentalement pas. Et j'espère que ça continuera comme ça et qu'elle ne nous remplacera pas, bien évidemment, je prêche pour ma paroisse, mais elle ne réfléchit pas, en fait, à toutes les problématiques qu'il pourrait y avoir. Et c'est bien plus complexe, ensuite, elle va te poser un truc, quoi. Genre, elle te pose un truc en fonction de ce que tu lui donnes, toi. Mais il y a quand même des personnes qui disent qu'effectivement, ça les a aidés à poser les interfaces derrière qu'ils voulaient pour leur jeu. En tout cas, avoir une première ébauche, ouais. Je sais pas si c'est resté dans la production derrière et si c'est quelque chose qui est resté, tu vois, genre en mode base pour les
combien de temps ça a pris à corriger, à affiner
aussi. Exactement. Genre, c'est pas un truc qui est resté tel quel en mode je prends et j'en fais ma UI par-dessus et voilà, c'est mis tel quel. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est plus en mode ça m'aide à réfléchir et je pars avec. Je sais que par exemple, pour les playtests aussi, c'est quelque chose qui peut aider. Ça aide, mais dans les questions. Tu vois, genre c'est de se dire, j'en sais rien, tu vois, c'est plus ChatGPT en mode, ok, comment je vais organiser mon user test, mon play test, quelles sont les différentes méthodes qui existent, et ça va aider des personnes plutôt que d'aller regarder sur internet les méthodes qui existent et de les apprendre, de demander à l'IA. Je pense que c'est hyper important de savoir ce que l'IA est capable de faire et d'être toujours au courant, tu vois, de ce qu'elle fait pour être au courant, parce que je pense que c'est quand même important de rester au courant. Maintenant, moi, je reste quand même fondamentalement convaincue en moi que l'IA ne remplacera jamais l'UX design, à proprement parler, un UX designer. Elle peut aider, elle aidera, c'est sûr, des personnes qui ne voudront pas d'UX designer et qui penseront que potentiellement ça suffit. Mais quand on voit les interfaces de jeu aujourd'hui, même en ayant aujourd'hui des UX designers, j'ai confiance au fait que c'est pas prêt de tout remplacer, quoi. Justement parce que bah, les studios comprennent pas forcément ce que c'est le design, laissent pas forcément place encore beaucoup aux UX designers qui leur disent « Attention, l'interface ne marchera pas !» Et on leur dit « Oui, mais c'est pas prioritaire, donc on changera plus tard, c'est pas urgent. » Donc une IA qui, dès le départ, va te faire un brouillon vite fait et tu vas te conforter dans l'idée que ça suffit largement pour faire une bonne interface ou des bons flows, j'y crois pas trop. Mais voilà, en UX design, c'en est à ce stade-là. Après, je sais que les studios de jeux vidéo utilisent de l'IA dans leur process créatif, dans d'autres métiers de réflexion. Tu vois, par exemple, tout ce qui va être du concept art ou tout ce qui va être de la génération, j'en sais rien, d'icônes dans leurs interfaces, le temps de créer leurs propres icônes, par exemple.
Ah oui, et après, ils repassent derrière. Mais alors, du coup, j'imagine qu'on parle surtout des petits studios. C'est surtout les... Enfin, j'espère
des conversations que j'ai eues, il n'y a pas que des petits studios, non. Ouais. Ouais, ouais. Bah ouais, en fait, et ça, c'est le problème de l'industrie aussi, tu vois. Genre, c'est qu'en fait, l'industrie nous demande de faire des jeux toujours plus rapidement, en un temps toujours plus court, et des jeux toujours plus gros. Et donc, forcément, si tu n'arrives pas à produire un truc super vite, il y a un problème. Et donc, je trouve que les personnes, et enfin, même comme dans la société, tu vois, de manière générale, on tend de plus en plus à faire toujours plus vite, toujours plus rapidement. Et il y a du coup cette tendance à se dire, bah, l'IA, je te dis, des discussions que j'ai eues, encore une fois, c'est pour ça que je donne pas de nom ou quoi que ce soit, parce que c'est des discussions que j'ai à droite à gauche, c'est pas ma propre parole, mais il y a des personnes effectivement qui vont se dire, je vais réfléchir ou je vais faire des débuts d'interface avec justement ce que l'IA peut générer pour donner une impression, enfin pour avoir quelque chose de tangible et que la direction ou que les personnes qui travaillent avec moi puissent se projeter plus rapidement.
Ah oui. Gomeïssa, tu voulais réagir également à tout ça ?
Oui, je voyais un post sur Blue Sky qui disait, c'est Psyché Ludique qui publiait ça, et qui disait le nombre de jeux sortis en 2023, c'était 14 000, en 2024, 18 000, et du coup, il parlait aussi des nombres de jeux qui, du coup, déclarent intégrer des assets Paris Agen, donc du coup, en 2023, c'était 125, et en 2024, c'est 2154, donc vraiment une belle évolution du truc. Et moi, ça me posait un peu la question de est-ce que du coup on va se retrouver avec du coup des je sais pas une sorte de label genre made by people quoi
avec des vrais morceaux de gens dedans
ouais une vraie plus-value de d'avoir un peu en fait moi ça me posait je trouvais qu'il y avait des débats intéressants sur l'usage de l'IA dans le sens où il y a des trucs effectivement on s'en fiche de faire un produit un petit peu intéressant et il nous faut de la musique d'ascenseur pour mettre en fond de pub, enfin un truc comme ça. Et puis il y a des moments où tu as besoin d'un truc très, très créatif, très intéressant, avec une vraie démarche. Et du coup, là, du coup, on va trouver... Enfin, je ne suis pas sûr que ça marche en vrai, parce que j'ai l'impression que, de toute façon, il faut essayer de réduire les coûts de partout et pour en mettre de plus en plus dans certaines poches. Et du coup, je ne suis pas sûr que ça marche vraiment, mais ça me posait la question. Et puis, il y a aussi la question de quand tu produis un truc... Enfin, ça, c'est pareil, moi, j'ai du mal à me représenter, je ne travaille pas dans l'industrie. Si tu utilises de l'IA, admettons que du coup, tu vas faire du coup, ta production d'assets plus rapidement, pour moins cher, est-ce que du coup, tu ne perds pas déjà, en fait, en termes de temps de travail ? Parce qu'en fait, il faut toujours que tu repasses derrière, en fait. Donc, c'est ça que j'ai du mal à comprendre. Est-ce que c'est un vrai intérêt ? Est-ce que du coup, les jeux vont sortir moins cher, alors qu'en fait, pas du tout, ils ne vont pas du tout sortir moins cher ? Et donc, du coup, pareil, ça pose aussi une question. Et puis, il y a aussi la question... Encore une fois, moi, dès qu'on parle de coût d'un truc qu'on va consommer, il y a qu'est-ce qu'on paye ? Et du coup, je pense aussi au coût absent, tout le coût en justice sociale, ouais, voilà. Tout le coût environnemental, qui va reposer du coup sur l'environnement et sur les populations riveraines des infrastructures, comme on le voit déjà. Je sais pas, ouais, c'est... moi, ça me pose vraiment question, ces trucs-là, quoi.
Je pense que déjà, ce que tu disais sur, effectivement, est-ce qu'il va y avoir un label généré par un humain, bah, il y a justement Tizona qui le montre, qui montre qu'elle avait déjà vu ça sur une page Steam. Moi, je le vois de plus en plus, pas que dans le jeu vidéo, mais je l'ai vu aussi ailleurs sur des illustrations, des choses comme ça. Et je pense que c'est important, et je sais qu'on a souvent cette discussion-là aussi en live, mais comment dire ? Je pense que tout le monde n'est pas au courant, en fait, de comment ça se passe. Tout le monde n'est pas au courant de où on peut retrouver l'IA. Et je pense que c'est important d'en parler, du coup. Et ouais, après, le souci, c'est que l'IA, elle est sous tellement de formes différentes. Il va y avoir l'IA qui remplace littéralement des métiers. L'IA générative, donc du coup, enfin, l'IA générative, l'IA procédurale. Parce que l'IA procédurale, c'est aussi, par exemple, tu vas faire un niveau, tu lui donnes des règles, et ensuite tu dis à l'IA, OK, génère-moi le niveau sous 50 formes différentes. Mais ça existe depuis un moment, ça. Pareil, dans tous les filtres qu'on utilise, etc., c'est de l'IA, tu vois, techniquement, ça change ta photo sans que tu aies à le faire toi-même. Et je trouve que c'est là que c'est hyper compliqué de faire la distinction entre l'IA que tu vas réussir à intégrer dans ton process de travail, qui, pour le coup, pour moi, fait, au-delà de faire gagner du temps, te réduit aussi d'une certaine... contrainte de travail qui est pas entre guillemets intéressante, c'est même pas intéressante à faire, mais ouais, tu vois, c'est long, c'est rébarbatif, et un humain n'est pas forcément utile entre guillemets, bien que honnêtement ça générerait quand même de l'emploi et il y a besoin en ce moment, mais pour moi, ouais, je distingue quand même l'IA effectivement qui va t'aider dans ton process créatif et ton process de travail versus l'IA qui remplace littéralement.
Tizona, tu voulais réagir aussi à la conversation?
Yes, bah c'est vrai que c'est hyper dense. Pour revenir un peu directement au sujet du fait que d'espérer que les indés vont pas tomber dedans, justement là, suite à l'article que tu as partagé, donc l'interview qui a été donnée, il y a eu une tendance en tout cas sur Blue Sky de pas mal de devs qui ont pu faire aussi leur promotion d'ailleurs,
ah oui,
de jeu en disant nous on est indé, on n'a jamais utilisé ça. Et alors, je pense que voilà, c'est pas ça, ça révèle pas du tout de l'intégralité des pratiques qui peuvent avoir lieu, surtout à différents niveaux. C'est pas comme tu dis, Maureen, on n'est pas forcément sur de l'IA génératif tout le temps. Et quand bien même on est, voilà, il y a des systèmes d'IA, je pense qu'il y a un manque clair de médiation, quels que soient les niveaux, quels que soient les âges aussi. Parce que pour nos parents, c'est extrêmement compliqué le sujet de l'IA. Déjà que ça l'est pour nous, alors pour les générations plus avancées, ça l'est encore plus. Mais du coup, c'était intéressant de voir cet inversement. Et que Napel, au début, tu disais que t'espérais pas que des grosses boîtes fassent ça. Alors, il y a un petit jeu, je sais pas si vous connaissez, il s'appelle Black Ops 7, qui a intégré des petites icônes au style un petit peu récurrent. Je les partage avec vous là, mais un petit peu Ghibli. Et donc, il y a un menu qui fourmille d'images de ce genre avec le filtre bien jaune, etc.
Ouais.
Pour l'instant, ils ont plutôt renié les faits. Mais bon, c'est quand même assez parlant, sachant que, en effet, il faut absolument, normalement, sur Steam, qu'un jeu qui utilise de l'IA le fasse figurer. Sinon, ça peut être motif de remboursement. Et à ma connaissance, sachant que ça date d'il y a quelques jours, je ne crois pas qu'il y ait une prise de parole additionnelle pour dire... bon, c'est non. Et juste pour finir très très rapidement, si par rapport au fait de est-ce que l'IA remplacera tout, enfin pourra remplacer tout sur le jeu, je dirais qu'il y a au moins un endroit où je pense que l'IA ne n'ira pas. Alors, c'est pas forcément le meilleur endroit, mais par exemple sur tout ce qui est jeu mobile ou tout ce qui est gré pattern, je pense que l'humain voudra toujours avoir la main dessus pour savoir comment manipuler les gens, si bien que je pense que ça sera jamais relégué aux IA. Après, je sais pas si c'est...
Je pense que ce sera tenté quand même.
Oui, ça peut être tenté, mais je pense que ce sera jamais aussi méchamment bien exécuté que par l'être humain.
Avant de passer la parole à Gomeissa, je vais compléter la citation, pardon, sur laquelle est basé l'article. Parce qu'effectivement, je vous ai donné que la première partie. Donc, le CEO de Nixon, Monsieur Lee, si je ne dis pas de bêtise, qui dit « Je pense qu'il est important de considérer que chaque entreprise de jeu utilise désormais de l'IA, mais si tout le monde travaille avec les mêmes technologies, la vraie question devient comment survivez-vous ? Je pense que c'est important de choisir une stratégie qui augmente sa compétitivité. Donc effectivement, quand on se pose la question de pour qui, pourquoi on intègre de l'IA dans les process de travail ou dans les processus créatifs, en fait, la question, elle est vite répondue, Kevin, c'est pour l'argent, finalement. Donc on en revient à ces riches investisseurs qui se demandent s'il n'y a pas trop de woke dans leurs jeux vidéo et qui veulent de l'IA partout. Gomeïssa, tu voulais réagir également ? Désolée, je te balance une espèce de patate chaude, je viens de lâcher une... Je viens de faire un petit drop mic et je te fais « Oui, tu voulais dire quelque chose ?»
Ouais, mais tu vas voir, en fait, je pense que ça rejoint un petit peu... je pense que ça rejoint un peu le mood et peut-être même un peu une idée de fond. Parce que, en fait, du coup, les IA génératives, en tout cas, parce qu'effectivement, il y a tout un débat sur... Enfin, il y aurait tout un truc à faire sur qu'est-ce que c'est qu'une IA, qu'est-ce que c'est qu'une IA générative, parce qu'effectivement, les deux mots sont mélangés. Depuis quelques années maintenant, alors que les IA, ça fait partie du jeu vidéo depuis le début, quoi. Mais c'est l'idée que, du coup, ces IA génératives, elles fonctionnent, en résumant très très grossièrement, et probablement je sursimplifie, mais elles fonctionnent structurellement en faisant une sorte de moyenne de leur dataset. Et donc, du coup, on se retrouve avec de la création, en tout cas visuelle, qui serait assez consensuelle. Enfin, vraiment un truc qui dit, OK, avec tout ce que j'ai engrangé comme data, en fait, je vais vous faire une sorte de moyenne de tout ça. Donc, je vous fais un truc qui est un petit peu, qui met un peu tout le dataset d'accord. Et c'est ce qui fait que, du coup, on a ces images avec une teinte jaune. Apparemment, c'est un des effets secondaires de ce truc-là, quoi. Mais du coup, je trouve que ça pose vachement la question de, est-ce que, en fait, on veut des jeux qui, dans leur démarche artistique, ne bousculent pas ? Sont consensuels, sont un peu lisses. Et du coup, ça rejoint vachement les discours sur les IA génératives comme des outils qui s'inscrivent dans une espèce d'étouffement de la démarche artistique. Et du coup, ça rejoint vachement peut-être ce que tu disais un peu en sous-texte, du coup, Queen Apple, sur, bah voilà, en fait, est-ce qu'on a envie d'un art qui bouscule pas trop ? Est-ce qu'on a envie d'une démarche artistique qui va pas trop gratter, qui va pas trop déranger ? Et du coup, ça fait vachement le lien avec les rapprochements qu'il y a entre les IA génératives et du coup, le fascisme sous cette formule-là de on essaie d'avoir, on va dire, une sorte de monde intellectuel, de monde artistique qui va être un peu policé, qui va pas trop lever la voix, quoi. Qui va pas, en tout cas, sortir, pas être critique et pas venir explorer des trucs, quoi. Justement, il faut un truc très, très ordonné, quoi.
Et je trouve que ça rejoint même un peu ta chronique sur la différence entre nature et culture, parce que là, on est nulle part, en fait. On est... la différence philosophique, évidemment, entre nature et culture... On est dans une espèce de chaos absolu qui reprendrait des artefacts d'idées, même pas l'idée complète, quoi. Des représentations d'idées qu'un jour quelqu'un a eues et il la mélangerait avec plein d'autres de représentations. Enfin, du coup, on perd tout le sens qui a été donné à la base à ces représentations. Et bon, là, je parle évidemment beaucoup d'IA, graphique, vidéo, tout ce qui me touche le plus visiblement, en tout cas. Et ouais, on perd toute l'intention en fait qui était donnée derrière. Et même quand on parlait de processus de travail avec toi, What the Fux, il y a des gens qui ont réfléchi à ces processus. C'est les ouvriers du jeu vidéo et les ouvrières du jeu vidéo qui ont réfléchi à comment mieux travailler et qui ont voulu documenter un petit peu comment ça se passait, etc. Et en fait, utiliser de l'IA pour récupérer ce travail-là, pour leur voler leurs idées, mais leur faire perdre leur sens, ça pose problème de tous les côtés. Mais d'un autre côté, comme je disais tout à l'heure, c'est poussé par notre gouvernement, c'est poussé par les investisseurs, c'est ça qui est financé aujourd'hui, et tu peux pas t'en passer non plus. Enfin, tu te retrouves vraiment dans une situation de merde, en fait. tu peux rien faire.
C'est ça, il n'y a pas d'autre mot, de merde.
Fric égale pognon, je pense que c'est une belle conclusion de la part de Gomeïssa.
Mais il y a quand même ce dernier point, effectivement, que tu soulèves, et ça me fait penser du coup aux artistes et tout. Je finis juste là-dessus, mais c'est ce que tu dis quand tu dis situation de merde, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de personnes aussi qui ont peur de pas, peut-être bosser assez vite, de pas retrouver de boulot, d'être mis de côté, d'être oublié. Et donc, tu as énormément de gens dans le milieu artistique, dans les métiers artistiques, qui te disent... Mais en fait, c'est simple, si jamais tu ne regardes pas, si jamais tu ne te renseignes pas, si jamais tu n'utilises pas, tu vas être mis de côté. Et du coup, en fait, tu vois, même moi qui te dis je ne l'utilise pas, mais je suis allée voir ce que ça fait,
ouais, il faut que tu saches.
Tu vois,
c'est professionnel,
c'est ça. Ouais. Tu ne peux pas ne pas savoir.
Et même quand tu disais, il y a des artistes qui l'utilisent juste pour avoir l'inspiration, pourquoi on a besoin d'avoir l'inspiration ouais. là tout de suite? Est-ce que c'est grave de pas avoir ouais. tu sais, le syndrome de la page blanche? C'est chiant, j'imagine, hein, mais est-ce que ça fait pas partie du processus aussi pour avoir l'inspiration plus tard? Enfin bref, ça pose trop de questions.
Si, si, ouais. Il faudrait, hein. Mais tu vois, ça me rappelle une dernière discussion que j'ai eue en interview qui était les studios, et ça a un peu toujours été ça, mais aujourd'hui peut-être plus, demandent à ce que tu donnes une deadline de quand est-ce que tu vas être capable de fournir un boulot. Et du coup, il y a une personne qui me disait, mais moi, je suis hyper créative. Par exemple, je vais bosser dessus pendant une semaine et en fait, je vais revenir dessus le lundi d'après. Je vais me dire, mais que c'est pourri ce que j'ai fait et que je veux refaire. Ouais. Donc, j'ai du mal à donner des deadlines. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui fait qu'on est obligé, tu vois, de faire ça. On n'est pas tous comme Tim Cherry qui avons des millions et qui pourront tenir 7 ans, 8 ans, tu vois, pour faire un jeu. Mais ouais, il y a ce côté-là de, déjà, de facto, les entreprises ont besoin d'avoir des deadlines. Mais en plus de ça, parce qu'il y a de l'IA, on est encore plus poussé à dire, t'as plus de raison, en fait, d'avoir la page blanche. J'ai
alors
l'impression,
qu'à mon avis, c'est un peu ça. Vraiment utile. Enfin, ça sert à quelque chose dans...
Mais oui.
Cette discussion n'aura pas de fin, je suis désolée, Tizona.
Vous avez écouté Une heure et des pixels, une émission produite et réalisée par l'association Pixel Up et diffusée sur Radio Campus Paris. Nous remercions nos chroniqueuses Anna Gomessa et Queen Apple, Maxime pour l'entretien, Maureen d'avoir accepté notre invitation, Vincent pour la programmation musicale et Lazare pour la technique. N'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite, de partager nos publications sur les réseaux sociaux et de parler de nous autour de vous. Vous pouvez aussi nous soutenir financièrement sur notre Ko-fi si vous le pouvez, cela nous permettra de continuer à produire nos programmes et à vous proposer toujours plus de points de vue sur le jeu vidéo. Nous nous quittons sur le thème principal du jeu Hyrule Warriors Age of Imprisonment, composé par Keiichi Okabe.